squate, le domine, le zomme, le femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions et vous retirez sur le côté gentiment.
Monsieur,
comme ça il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine sur l'Écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien, je crois que ce soir nous allons faire une émission par rapport à Cuba, au niveau du mouvement anarchiste cubain.
On va prendre un peu de hauteur et puis on va un peu décoller et s'en aller dans ces temps très froids et très glauques en France. On va aller vers
les Caraïbes.
Et la Caraïbe, ouais, pour parler et faire un peu de géopolitique au sujet d'un thème dont on a assez peu parlé dans
cette émission. Effectivement, le mouvement libertaire cubain, d'une manière générale, le mouvement libertaire caribéen. En effet, on avait entendu parler de Cuba ces derniers mois, ces dernières semaines, vu le rapprochement qu'il y avait entre les États-Unis, entre guillemets, entre Castro et Obama pour aller plus vite. Mais on n'est pas rentré dans les détails de cela, et pour ça donc que ça impliquerait de faire un peu de géopolitique et tout ça, et pour ça on va pas faire appel à Alexandre Adler ou à Bernard Guetta, on va plutôt faire appel aux gens qui sont en soutien et qui sont directement dans le bain, puisqu'on va faire appel à Daniel. Daniel, si tu es là, est-ce que tu m'entends?
Je vous entends parfaitement.
D'accord, tu m'excuseras pour la comparaison pas très sympathique que j'ai faite, mais on a choisi de faire appel à toi parce que il se trouve que tu connais bien le problème et la situation, puisque tu es un des animateurs d'un site internet et d'une revue qui s'appelle Polemica Libertaria, et la revue c'est Cuba Libertaria. Le site c'est Polemica, oui, Cubana, Polemica, pardon.
Cubana. Polemica Cubana, c'est un site, et effectivement Cuba Libertaria c'est la revue. Hein.
Et tu es également membre d'un groupe qui s'appelle le groupe de soutien et de solidarité aux libertaires et aux syndicalistes indépendants à Cuba. Est-ce que tu peux déjà nous présenter ces trois éléments-là, ces trois initiatives-ci?
Oui, le GALSIC, comme on l'appelle ça, donc le groupe d'appui aux libertaires et aux syndicalistes indépendants de Cuba, est un groupe qui existe maintenant depuis 15 ans. Il existe en France, mais aussi, on a aussi d'autres groupes, c'est une association de groupes, disons quoi, dans différents pays, en Espagne, au Mexique, aux États-Unis et aussi en Argentine. C'est un groupe donc qui s'est constitué depuis déjà pas mal d'années, dans la mesure où il nous avait semblé, alors que même à cette époque le mouvement libertaire n'était pas constitué, il n'y avait pas d'embryon même, on avait quelques contacts simplement avec des individus, on avait des contacts avec le mouvement libertaire cubain mais en exil, et on a décidé de faire ce groupe d'appui en se basant sur une vague de répression qui s'est abattue sur les journalistes, sur les syndicalistes indépendants et sur les gens qui tentaient, en prenant au mot Fidel Castro qui avait dit qu'à Cuba on pouvait lire n'importe quel livre et on pouvait se le procurer de toutes les manières possibles sans aucune répression. Ces gens avaient ouvert des bibliothèques autour autogérée. Donc ces gens se sont retrouvés en prison, ces journalistes se sont retrouvés en prison, les syndicalistes indépendants également. Donc il y a eu près de 500 personnes arrêtées sur une vague répressive, comme ça, c'était en 2003. Et c'est vraiment été le moment où le groupe s'est constitué. On a commencé à développer un travail de soutien. Soutien matériel, d'aide aux familles, avec les moyens que l'on avait à l'époque, qui étaient quand même assez réduits, mais voilà. Et puis, Cuba Libertaria, pourquoi ? Parce que il n'y avait pas de journal libertaire cubain depuis plusieurs années. Le dernier journal cubain qui existait en exil, hein, on peut même pas parler de Cuba, puisque dès 1960, tous les journaux libertaires ont été interdits à Cuba. Mais le dernier journal en exil, qui était fait aux États-Unis par des exilés cubains, Guangarra Libertaria, avait cessé aussi d'être publié. Donc, nous avons créé Cuba Libertaria, qui est le bulletin des Galcic, en langue espagnole, bien sûr. Et on a commencé à diffuser ce journal, sous le manteau, avec des livres aussi, parce que bon, on a fait tout un travail aussi pour faire parvenir des livres sur le mouvement libertaire, sur différents thèmes qui intéressaient les Cubains, qui à l'époque se définissaient pas totalement encore libertaires, mais qui ces livres ont peut-être contribué à la politisation de ces gens-là. Et c'était des livres sur les questions agraires, sur l'écologie, sur l'autogestion. Ils étaient très très intéressés par l'expérience espagnole d'autogestion en Catalogne, en Aragon et dans d'autres régions en Espagne en 1936. Et donc, voilà, tout ça a commencé à prendre corps. Et puis, moi, j'ai fait plusieurs voyages. J'ai fait notamment au départ deux voyages pour faire deux films sur des thèmes qui n'avaient pas grand-chose à voir à l'époque. Il s'agissait d'un portrait d'un chanteur cubain et un film sur le racisme et la question noire à Cuba. Et à travers ces contacts-là, j'ai pu petit à petit rencontrer des gens et qui ont été amenés à un moment donné à constituer un groupe qui s'appelle El Observatorio Critico de La Havane, l'Observatoire Critique de La Havane. Et ce sont des gens qu'on pourrait considérer comme faisant partie au départ de la gauche alternative, écolo, marxiste critique, marxiste libertaire, même, on pourrait même les situer comme ça, et puis des anarchistes. Mais c'est vrai que dans un premier temps, les anarchistes ne sont pas constitués en tant que groupe, parce qu'il est extrêmement dangereux à Cuba de créer une organisation politique qui ne soit pas reconnue par l'État. Et elles le sont toutes, puisque les seules organisations reconnues par l'État, c'est le Parti communiste cubain et ses satellites. Et donc, il a fallu attendre maintenant, et voilà, 5 ans pour que les anarchistes se constituent un vrai groupe, qui est l'Atelier Libertaire de La Havane, Alfredo López, du nom d'un grand militant syndicaliste libertaire du début du XXe siècle. Voilà, grosso modo, comment ça se passe. Après, on peut rentrer dans les détails sur la manière où ses copains, quand même, se nourrissent de toutes les lectures. On leur envoie des classiques aussi, de Bakounine, de Proudhon, des livres auxquels ils n'ont jamais pu accéder, parce qu'à Cuba, ces bouquins sont interdits.
Alors, la première surprise, après avoir parcouru le site, hormis le fait qu'on voit que la société cubaine est une société absolument pas figée, ça bouge, il y a des choses qui se passent, évidemment il y a des contradictions, mais le peuple cubain n'est absolument pas un peuple qui subit en silence cette dictature, on va employer les mots qu'il faut, quoi. C'est que, alors la première surprise quand on découvre le site et qu'on lit, c'est qu'on s'aperçoit que cette présence libertaire, on va dire ça pour englober large, c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose hors sol, mais c'est bien quelque chose qui est profondément inscrit dans l'histoire sociale de l'île.
Effectivement, bien sûr, l'influence libertaire, elle naît dès la fin du 19e siècle. On peut considérer que c'est à partir de 1865 qu'elle se fait sentir. Elle se fait sentir dans un pays où, il faut bien le dire, il y a un esprit libertaire très développé dans ce peuple-là, quoi. Il y a une espèce de libertarisme ou de communisme libertaire primitif, qui fait que les Cubains sont des gens qui, parce qu'ils ont vécu des épreuves terribles avec les colonisations, l'esclavage, sont des gens qui vivent énormément ensemble. C'est un peuple qui a l'habitude de faire face aux difficultés collectivement. Et donc, les racines du mouvement libertaire. Elles sont là, elles sont à partir de 1865, lorsque les idées libertaires commencent à être diffusées dans l'île. Il faut rappeler que dès le départ, c'est Proudhon qui influence les premiers militants qui parlent, qui sont des ouvriers progressistes, hein, qui travaillent principalement dans le secteur de l'industrie du tabac. Et c'est ces gens-là qui, à partir des écrits de Proudhon sur le mutualisme, sur un certain nombre de questions, c'est ces gens-là qui vont constituer les premières associations ouvrières à Cuba. Et c'est ces gens-là qui vont créer une conscience de classe qui existait, bien sûr, mais il n'y avait rien pour la canaliser. Et assez rapidement, on voit naître, en 1857, la première société mutualiste qui est inspirée par la pensée de Proudhon, évidemment. Après, il y aura les premières grèves ouvrières. Il y aura aussi la fondation du premier hebdomadaire anarchiste qui s'appelait La Aurora, qui a été créé par un Espagnol. Ce qu'il faut dire, c'est que les Espagnols, à cette époque-là, beaucoup d'Espagnols sont contraints de quitter l'Espagne parce qu'ils sont militants ouvriers, ils sont persécutés par la monarchie espagnole, et donc Cuba, c'est pour eux un exil. Mais ils viennent avec des idées avec lesquelles ils se sont battus en Espagne. Elles sont, on le sait, en Espagne, les racines du mouvement ouvrier sont nettement anarchistes. Et ces gens-là vont vraiment apporter une conscience collective. Comme je le disais tout à l'heure, parmi les ouvriers de l'industrie du tabac. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit apparaître des concepts d'organisation qui sont issus directement de la Fédération régionale espagnole, tels qu'ils furent élaborés au Congrès de Barcelone en 1881. Fédération régionale espagnole qui va devenir, quelques années après, la CNT, la Confédération nationale du travail. Donc on voit que l'influence espagnole est très très nette à ce moment-là. Alors bon, est-ce qu'on développe toute cette histoire?
Je ne sais pas, effectivement, on peut donner quelques idées de ce que pouvait être la société cubaine et sur quoi elle s'est constituée. Alors, c'est un pays issu de la colonisation espagnole, profondément esclavagiste, basé sur une agriculture et une production de tabac, de café et de sucre.
Il y a du café aussi, hein, tu ne te trompes pas non plus, mais bon, c'est vrai, à l'époque, ça n'est pas majeur dans l'économie du pays. Il y a surtout une production et une industrie sucrière très 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 développée. Hein.
C'est ça, on a pu parler de saccharocratie, ouais. C'est-à-dire une aristocratie liée aux colons espagnols issus de la bourgeoisie avec des titres de noblesse qui dominaient évidemment des masses entières, soit de paysans très pauvres ou soit quasiment d'esclaves, hein, ou de post-esclaves, puisque l'esclavage est aboli en 1886.
Exactement.
Qui va tout de suite créer une masse de paysans pauvres avec des rapports quasi féodaux, hein, et cet entretien de cette domination. Alors évidemment, quand on a une domination comme ça, il faut avoir la force, hein, de son côté. Donc tout de suite un État qui va s'appuyer sur les militaires et sur l'armée, et qui évidemment sera un État tout de suite répressif, quoi. On pourrait éventuellement parler mais rapidement, parce que ça serait l'occasion d'une discussion intéressante, mais de dire aussi que cette île, évidemment, ça aussi c'est quelque chose auquel il faut penser quand on s'attache à la construction de la mentalité d'une société. Mais donc cette île a été traversée par de nombreux conflits liés aussi à la décolonisation et à la guerre d'indépendance entre ces deux puissances tutélaire, d'une part l'Espagne et ensuite les États-Unis. Hein. Il y a
bien
toujours
sûr,
eu un enjeu, puisque Cuba est vraiment, on va dire, la passerelle, le pont entre ces deux cultures, la culture nord-américaine et la culture de l'Amérique du Sud. Et que donc aussi dans l'imaginaire américain, Cuba, et dans l'imaginaire européen aussi, hein, Cuba sera un peu cette île, comment dire ça, la Havane un peu comme comme dernier lieu des boucaniers. On pense ici aux écrivains qui ont pu se rendre et qui ont pu produire des ouvrages magnifiques, hein, Hemingway, etc. Enfin, toujours donc, voilà, une culture spécifique, on ne parle pas de la musique, liée à une organisation sociale, évidemment, très très inégalitaire, mais également spécifique, qui produit sa propre culture, sa propre mentalité, et là-dedans, un mouvement anarchiste qu'on va dire, peut-être pas spécifique, mais en tous les cas, à la fois influencé par tu l'as dit, les Espagnols qui étaient immigrés, mais qui est capable de peser et de s'organiser à travers des mouvements et même des regroupements dont on pourrait parler. Lesquels pourrait-on citer pour faire vite?
Oui, alors, évidemment, tout à l'heure, je faisais allusion à l'influence des Espagnols, la Libertad Espagnole, avec la Fédération Régionale Espagnole, qui est une référence pour les révolutionnaires cubains dès la constitution des premières associations ouvrières. Il y a des personnages extrêmement importants qui vont marquer l'histoire de ce mouvement dès le départ, et notamment un Espagnol qui s'appelle Enrique Roy San Martin, qui est un penseur, un écrivain, et qui vient d'Espagne, qui a été chassé d'Espagne, qui a été persécuté en Espagne. Et lui va créer le premier journal du Cercle des Travailleurs de La Havane, qui s'intitule El Productor, le producteur. En parallèle, on a aussi, il y a énormément d'artisans, il y a des petits métiers comme ça, et l'anarchisme a pas beaucoup de prise dans ces mouvements, dans ce mouvement-là, dans ce secteur-là d'activité, et il crée ces artisans, la Jeanne centrale des artisans. Donc c'est, dès ce moment-là, l'implantation libertaire devient très importante. Les grèves se multiplient, elles paralysent des secteurs entiers de l'industrie du tabac pour la première fois. Et on voit aussi à La Havane une fédération locale des ouvriers du tabac. Et c'est cette fédération locale des ouvriers du tabac qui va, juste après le massacre de Chicago, où des militants ouvriers et anarchistes sont assassinés, célébrer dès cet instant-là le 1er mai à La Havane. Le 1er mai qui va être réprimé parce que, évidemment, les Espagnols ne sont pas habitués à ce type de résistance, des masses dans la rue, comme ça, des travailleurs qui s'organisent. Donc la répression, très vite, elle est féroce. Tu faisais tout à l'heure allusion à l'esclavage. On est dans une époque où l'esclavage n'est pas encore aboli, là, hein, en 1880. Comme tu le disais, c'est en 1886 que l'esclavage est aboli. Et les anarchistes, même s'ils ne sont pas foncièrement nationalistes, ils n'ont pas une vision étroite de la révolution, ils pensent qu'il faut qu'elle soit internationaliste, malgré tout, ces anarchistes vont être plutôt favorables à l'indépendance, et dans tous les foyers révolutionnaires qui vont se créer dans l'île, mais aussi en Floride, où il y a beaucoup de Cubains qui vivent, et d'où partent beaucoup de mouvements de soutien, dans tous ces endroits-là, les anarchistes vont être très présents. Ils vont être présents à côté de celui qu'on appelle l'apôtre de l'indépendance, José Martí, et ils vont combattre à ses côtés. Il faut souligner que le mouvement anarchiste en Espagne et les événements à Cuba, tout cela est très lié. Le lien avec l'Espagne est très très puissant, très fort, ce qui donne énormément aussi de moyens, d'énergie aux Espagnols, aux Cubains. Hein. Le lien est très étroit, donc ça les aide dans ce combat pour l'indépendance du pays. Mais bon, à Cuba même, les autorités coloniales vont agir avec férocité. Il va y avoir énormément de libertaires de renom même, hein, qui vont être assassinés. Et en parallèle aux luttes qui se développent de guérilla, hein, on peut déjà parler de guérilla, il y a dans toutes les villes des grèves, des manifestations en faveur de l'indépendance qui ont lieu. Et dans cette partie-là de l'histoire de Cuba, là aussi, les libertaires même si, comme je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas, eux, cette vision étriquée de l'histoire et du combat pour la libération, puisqu'ils sont internationalistes, ils vont être là et présents aux côtés de Marty, et même au-delà, quand Marty va être assassiné par les Espagnols. Alors, tu parlais des relations entre Cuba et les États-Unis, bien sûr. Et bon, il va arriver, évidemment, le moment où l'Espagne va perdre cette guerre que mènent les anarchistes pour l'indépendance aux côtés des indépendantistes. Et c'est bien sûr à ce moment-là que les États-Unis vont pouvoir intervenir, et ça aura des conséquences graves aussi pour le mouvement libertaire, parce que les Américains vont s'emparer de l'île, vont mettre, à travers un amendement, vont mettre l'île sous tutelle. Les gouverneurs de l'île seront nommés par les Américains, par Washington, et la répression va continuer, bien entendu. Le danger est toujours présent. L'indépendance a été déclarée, elle s'est installée, mais malheureusement, pour le peuple, les conditions de vie n'ont pas changé. L'exploitation dans les entreprises sont les mêmes, dans les champs de canne à sucre, elle est la même. Et donc, évidemment, les Américains, qui bénéficient d'une position stratégique et géographique incroyable, hein, puisqu'ils ont une facilité à communiquer à travers l'étroit de Floride, évidemment, les Américains vont s'emparer de Cuba. Dans la mesure où, pour eux, c'est un axe stratégique de communication. Parce qu'à l'époque, il y a la perspective de la construction du canal de Panama. Et c'est vrai que pour le trafic des marchandises, Cuba, comme l'ont fait auparavant les Espagnols, pour les Américains, c'est une excellente tête de pont, disons. Hein.
Tout à fait. C'est là qu'on voit un petit peu quand même que cette région des Caraïbes, hein, avec Haïti, Saint-Domingue, Cuba, n'est pas forcément quelque chose à réduire simplement avec des arguments exotiques, mais bien de le voir aussi dans un ensemble géopolitique bien précis qui montre bien que ces territoires, même si aujourd'hui on nous dit que la guerre et la domination sur le monde, elle se fait pas d'autres lieux, ils ont des importances géostratégiques extrêmement spécifique et particulier. Alors, on va faire un grand saut, parce que malheureusement on n'aura pas le temps de passer sur ça. Effectivement, on pourrait parler pendant des heures de cette constitution de la nation cubaine, et puis de cette organisation de l'État et de l'administration, puisque on le répète, hein, la constitution cubaine comprenait un amendement, l'amendement Platt, tu en as parlé, qui mettait sous tutelle l'huile sous la domination américaine. Rappelez également que de 1906 à 1909, c'est le secrétaire d'État à la guerre des États-Unis qui est gouverneur de la République de Cuba, quoi. Donc on voit quand même qu'il y a ce lien qui est profondément fort, alors qu'au début du XXe siècle, les valeurs de liberté et démocratie, visiblement, ne s'appliquaient pas pour tout le monde. Enfin, on voit qu'il y a des vieilles habitudes qui ne se perdent pas. Et bon, bah alors voilà, on va complètement sauter 50 années pour arriver sur quelque chose qui est peut-être un peu plus familier des auditeurs, qui est effectivement cette révolution. Alors, comment l'appeler, castrite, c'est faire un mauvais mot pour la qualifier, puisque c'est une révolution d'un peuple. On va dire la révolution contre Batista, la révolution de 58. Qui fondamentalement est aujourd'hui dans les imaginaires, en particulier les imaginaires français, soit diabolisé quand on est de droite, soit complètement pollué par le romantisme révolutionnaire quand on est des gauches, on pense immédiatement à la figure du Che Guevara, ou alors constamment, on va dire, avec un droit de préhension par des associations ou des groupes qui, eux, ont une vision bien spécifique de cette révolution. Je pense à Koubassi ou à ce genre d'associations qui ont le monopole de la parole, on va dire, de gauche sur cette révolution. Alors, toi, en tant que libertaire, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de cette révolution, quoi, de cette chute de Batista?
Si l'on parle de la révolution, évidemment, on doit parler malgré tout quand même du régime qui va précéder le régime des frères Castro et de tous ces icônes de la révolution que sont le Che, Cienfuegos et tous ces gens-là. Cette révolution, évidemment, elle éclate sur des bases purement nationalistes. Les partis qui s'emparent de cette révolution, qui sont à la tête de la rébellion contre Batista, qui, on le sait, est un homme politique complètement à la botte des Américains, qui a permis l'installation, qui a permis de faire de La Havane une ville complètement qui est devenue le bordel de l'Amérique, comme on le sait. L'économie repose essentiellement organisée par la mafia américaine. Il y a de grands mafieux américains qui s'installent dans les grands palaces à La Havane. Enfin bon, il arrive un moment où le peuple n'en peut plus. Il subit cette présence américaine depuis déjà plus de 60 ans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, se fédèrent différents mouvements dans l'île. Alors, parmi eux, il y a les anarchistes. Les anarchistes, pourquoi ils luttent contre le régime de Cuba, de Batista, à Cuba? Ils luttent parce qu'ils sont toujours dans la logique de leur combat contre le capitalisme et contre l'exploitation. C'est toujours les idées libertaires qu'ils défendent, évidemment. Donc, ils vont s'allier parce que il faut créer un rapport de force. Ils vont s'allier. On va les retrouver d'ailleurs aux côtés de leurs alliés qui sont le mouvement de Fidel Castro, le mouvement du 26 juillet, qui est à l'origine de la guérilla dans la partie orientale, hein, dans la Sierra Maestra. Ils vont s'allier au directoire étudiant qui mène la bagarre dans la ville, la capitale, La Havane, et à Santiago de Cuba, les deux grandes villes universitaires. Ils vont s'allier aussi à des groupes, des syndicats, notamment la centrale syndicale cubaine à l'époque, qui est en partie aux mains des communistes, mais aussi il y a une forte présence libertaire dans certains secteurs. Et ces anarchistes vont combattre contre le régime de Batista dans les villes, à travers le mouvement ouvrier, mais aussi vont s'engager dans les guérillas orientales, dans la Sierra Maestra notamment, comme je le disais, et aussi dans la Sierra Escambray, où a opéré le Che à une époque. Et on va les retrouver au coude à coude, donc les armes à la main, et ils vont, dès les premiers instants, lorsque ce mouvement révolutionnaire qui va très très rapidement s'emparer de l'île, la guérilla commence en 56 et la révolution finit en 59, donc ce sont 3 ans de résistance. Durant ces 3 années, les anarchistes vont combattre, mais d'ores et déjà, lorsqu'on lit la presse libertaire, notamment une brochure éditée par des camarades libertaires en 56, qui s'intitule « Proyecciones Libertarias », « Projection Libertaire », il attaque déjà le régime qui va se mettre en place. Il note déjà dans un article peu de confiance qu'ils font à Fidel Castro, parce qu'ils considèrent que c'est un opportuniste, un aventurier, et ils ont une lucidité quand même incroyable pour l'époque, quoi, parce que là on est vraiment dans les premières heures de la révolution. Et d'ores et déjà, ils ont des doutes sur la capacité donc de ces gens à vouloir faire une révolution authentique, quoi. Hein.
Ouais.
Alors bon, c'est vrai qu'après, à la victoire de 59, les libertaires vont avoir une attitude plutôt réservée au départ, hein. Mais très rapidement, dans leurs journaux, ils vont commencer à condamner les agissements des militaires au pouvoir, parce que c'est un régime militaire qui s'installe, hein. Le nouveau régime est aux mains des militaires. Il y a quelques personnages comme ça, comme le président d'Orticos, qui est nommé par Fidel et qui est un civil, mais il ne va pas rester au pouvoir. Très vite, Fidel va avoir les pleins pouvoirs. Donc, dès ce moment-là, les anarchistes font connaître leur position. Il y a des textes fondamentaux là-dessus qui ont été publiés. Et ça leur vaut très vite d'être expulsés des syndicats dans lesquels ils agissent. Et ça, dès les premiers jours de 1960, hein, ça va très très vite. Hein. Et donc, très vite, les anarchistes qui voient que finalement, Castro va pencher vers l'établissement d'un gouvernement totalitaire, ils le voient dans les pratiques des hommes de pouvoir, ils écrivent une déclaration qu'ils vont publier dans l'organe du regroupement syndicaliste libertaire, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il réaffirme dans cette déclaration, elle va très loin, elle réaffirme le refus de l'État. Ils veulent une autre organisation du travail fondée sur la coopération et l'autogestion, ce qui n'est pas le cas. formidable, parce que très vite, le centralisme agraire est impulsé par le nouveau régime. On voit débarquer dans les campagnes des ingénieurs qui sont là et qui prétendent enseigner aux paysans la manière de travailler la terre, d'organiser la production. Enfin, et donc, ce centralisme bureaucratique, qui est très inspiré dès les premières heures du modèle soviétique, finalement, ce centralisme bureaucratique va créer des tendances autoritaires qui très vite vont faire que la révolution va cesser de perdre de son énergie, de son dynamisme. Alors qu'au départ, il y avait une attente énorme de la part des travailleurs et des paysans, parce qu'effectivement, ils ont cru que les bases étaient en place pour bouleverser la situation, et ils pensaient vraiment qu'ils allaient pouvoir s'emparer des terres, des entreprises, et qu'ils allaient autogérer ces entreprises.
Tout à fait.
Il y a un écrivain allemand qui a été témoin des collectivités aragonaises en 1936, qui s'appelle Augustin Souchy, et ce journaliste, écrivain allemand, est invité à La Havane par Fidel Castro pour venir observer la mise en place des premières au niveau au niveau agraire, des premières coopératives.
Oui, c'est en 1960.
Et il demande à Souchy de faire un rapport qui doit être publié d'ailleurs. Hein. On lui dit, vous êtes un spécialiste de la collectivité, vous avez connu l'Espagne libertaire, vous allez nous aider. Et donc Souchy, très rigoureusement, il visite plusieurs coopératives, et très vite, dans ce qu'il va produire après, il fait un constat très négatif en disant que la confiscation du pouvoir est le fait d'une minorité inféodée au mouvement du 26 juillet de Fidel Castro, que on impose des modes de production complètement hallucinants pour l'époque, qui n'ont rien à voir avec la propriété traditionnelle des paysans, c'est des petits paysans. Il y a bien sûr les secteurs comme l'industrie sucrière qui sont aux mains des Américains, bien sûr, mais les petits paysans, eux, ne le voient d'un très mauvais œil, finalement, ce pouvoir qu'on leur impose depuis les plus hautes sphères de l'État, quoi. Et bon, c'est vrai que le bouquin de Souchy ne va pas être publié. Il va être, alors même qu'il était imprimé, il ne va pas être mis en librairie, mais on va l'envoyer au pilon. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une distanciation de Fidel Castro vis-à-vis des anarchistes. Il va y avoir les premières arrestations, les premiers exils, parce qu'ils sont les anarchistes sont accusés d'avoir rallié le camp de la contre-révolution, ce qui est quand même énorme. Dans la mesure où les anarchistes se battent contre le capitalisme, contre l'exploitation depuis plus d'un siècle à ce moment-là, quoi. Et voilà comment, donc, finalement, les anarchistes sont amenés, à un moment donné, à publier un bulletin clandestin qui s'intitule « Movimiento d'action syndicale ». Et comment les anarchistes, ceux qui ne s'exilent pas, ceux qui ne finissent pas en prison, ceux qui ne sont pas fusillés, malheureusement, il y a des anarchistes fusillés, certains rejoignent certains foyers de guérilla, qui reprennent, mais là, qui luttent contre le pouvoir de Fidel Castro, quoi. Et là, jusqu'au milieu des années 60, la situation est ainsi. Et puis très vite, les anarchistes disparaissent parce qu'ils n'ont plus moyen d'exister, ils n'ont plus droit d'expression, et à la moindre volonté de leur part de s'exprimer, ils subissent les tribunaux, l'emprisonnement. Et donc voilà, le mouvement libertaire est s'éteint, hein, on peut le dire, en 1965.
Très bien. Daniel, je te propose de faire une petite pause afin de reprendre notre respiration, et puis d'essayer de consacrer la deuxième partie de l'émission à aujourd'hui, maintenant, et puis à essayer de comprendre ce qui se passe actuellement à Cuba, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de dégel des relations entre Cuba et les États-Unis. À tout de suite.
Oui, d'accord.
Muchas gracias. dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de ese beso que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de tu amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Alors, donc on revient à notre sujet et à des temps un petit peu plus contemporains. En fait, effectivement, on se rappelle qu'en décembre, à la fin de l'année 2014, l'apparition simultanée de Barack Obama et de Raúl Castro sur les écrans de télévision des États-Unis et de Cuba, pour annoncer de manière assez surprenante pour des gens qui n'étaient pas au fait de l'avancée des négociations, le dégel des relations entre les deux gouvernements. Ainsi, par cette double annonce de part et d'autre, on avait la première étape vers une normalisation, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut en tous les cas accorder, mais en tous les cas le dégel de 53 années de guerre froide et de guerre de plus ou moins basse intensité, puisque à certains moments cette guerre a pu se réchauffer. Alors Daniel, comment déjà on peut essayer d'expliquer cette annonce surprise? Déjà, on peut mettre un point d'interrogation, puisque est-ce que c'est vraiment une surprise pour les gens qui suivent les relations américano-cubaines? Et comment on peut éventuellement l'interpréter et l'expliquer?
Oui, moi je pense que pour tous ceux qui ont observé ces dernières années la situation à Cuba, et même pour les Cubains eux-mêmes, ça a été une énorme surprise. parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas dire qu'il y avait eu des signes avant-coureurs d'un réchauffement des relations. J'ai même constaté que l'an dernier, quand Poutine est allé à La Havane, dans les déclarations officielles, il était clair que le rapprochement, qui n'est finalement un renouement, parce qu'on sait que les Russes ont été extrêmement... S'il y a eu trois grandes présences étrangères à Cuba, il y a l'Espagnole, l'Américaine et la Russe pendant la période qui va de 1963 jusqu'à la période spéciale 1990 où les Soviétiques se retirent. Et on voit que l'an dernier, donc, lors de ces discussions entre Poutine et Castro, que les Russes, qui cherchent à développer aussi leur présence en Amérique latine, annulent une partie de la dette, parce que les Cubains avaient contracté une dette très importante. Poutine annule cette dette, et on voit aussi que le centre d'informations, d'échanges radio, qui est un centre extrêmement important à La Havane, qui avait été créé par les Soviétiques pour observer, pour pouvoir espionner les Américains, ce centre est restitué aux Russes, et de nouveau les Russes exploitent le centre, et ils le disent clairement, pour déjouer les plans américains concernant l'île. Donc on est dans une période où on est loin du réchauffement, où on sent que de nouveau la tension monte entre les États-Unis et Cuba. Alors je crois qu'il y a un personnage central dans tout ça, quand même, sans faire son apologie, c'est Obama. Obama, depuis avant même son élection, considère que ça ne peut plus être... Cuba ne peut plus être considéré comme un pays terroriste. C'est plus un ennemi pour Cuba. Obama, il observe depuis 1990, depuis le départ des Soviétiques, les tentatives de libéraliser certains métiers, de revenir à une économie de marché, bien entendu, pas brutalement, mais par étapes comme ça. Et il sait aussi que les Cubains ont de toute façon, aujourd'hui, ils sont au pied du mur. L'aide du Venezuela, que le Venezuela a pu apporter ces dernières années, notamment avec des ventes de pétrole à un prix très bas par rapport au marché, cette aide va s'amenuiser. Le risque, c'est qu'aux prochaines élections au Venezuela, la droite repasse au pouvoir et donc rompe toute relation avec Cuba. Donc qu'est-ce qui se passe? Les Cubains, finalement, font un pas en avant aussi, mais ils le font évidemment, je pense que l'objectif de Castro et de la nomenclature au pouvoir, qui veut surtout pas que son pouvoir, tant au niveau économique et politique, ne soit remis en question, ces gens-là ne veulent pas d'un retour à un libéralisme de type de celui des pays comme le nôtre ou des États-Unis. Donc c'est par étapes. Les Cubains opteraient plutôt pour un libéralisme à la chinoise. Mmh. Ça les arrangerait bien.
Oui, tout à fait. Oui,
libéraliser une partie de l'économie, permettre à des entreprises étrangères d'investir dans l'île. Il y a déjà un pont qui a été mis en place, puisque ils viennent d'ouvrir un port en eau profonde avec le financement des Brésiliens. Ça, c'est significatif aussi. Ça veut dire que ça fait déjà de nombreuses années que des pays étrangers investissent dans l'île. Et ça veut dire aussi que les Cubains n'ont pas envie, les Américains n'ont pas envie de perdre trop de temps non plus dans cette course d'influence et pour s'emparer au niveau du leadership au niveau économique. Donc ce port en eau profonde, c'est un signe. Et maintenant la négociation, elle est là. Il est clair, Raúl Castro l'a dit, qu'ils ne remettront pas en question leur revendication de restitution par les États-Unis de la base de Guantanamo aux Cubains. Ils continueront à réclamer cette base. Les Américains disent non, Obama l'a dit clairement, c'est un accord, un traité international, on ne partira pas. Évidemment, il y a eu un espèce de triomphalisme lorsque l'information nous est venue. On a eu l'impression que les Américains allaient débarquer avec des hamburgers dès le début du mois de janvier, quoi. C'était un peu, il y avait un espèce de ça suscitait un élan, mais malheureusement aussi, les copains me le disaient récemment, dans la population de La Havane qui a cru percevoir d'ores et déjà la fin de tous ces problèmes, parce que voilà, les gens sont un peu politisés, il faut bien le dire, à Cuba, après tant d'années de dictature. Donc je pense que on est en phase de négociation. Il y a eu de nouveau une rencontre d'une délégation américaine à La Havane avec une délégation cubaine. Les Cubains ont fait un pas en avant en permettant aux membres de cette délégation de rencontrer des dissidents. Enfin, il fallait voir quel type de dissident, parce que c'est surtout une opposition de droite, voire même d'extrême droite, et sociale-libérale, qui a été reçue par la délégation américaine. Il est évident que les libertaires et tous ceux qui incarnent une gauche alternative à Cuba ne seront jamais reçus, les Américains n'en ont rien à faire. Et voilà, on est dans une situation d'attente. Moi, personnellement, je crois que il faudra beaucoup de temps quand même pour rétablir totalement les relations. Ça sous-entendrait, si les relations sont rétablies, que les Américains aient le pouvoir d'investir dans l'île. Ils l'ont, on sait. Il y a des programmes économiques mis en place, tout ça déjà dans les ordinateurs, on le sait, notamment de la Fondation Cubano-Américaine, qui est un groupe de gros investisseurs cubains, qui sont des hommes d'affaires cubains qui ont réussi aux États-Unis et qui sont là, ils sont dans les starting blocks, ils n'attendent qu'une chose, qu'on leur porte, que la porte s'ouvre pour pouvoir investir dans l'île. Mais il y a toute une partie diplomatique, parce que la question économique, finalement, dans tout ça, elle est secondaire. La question diplomatique, c'est de savoir, est-ce que les Américains vont accepter que Fidel Castro et les membres de son gouvernement et toutes ces bureaucraties parasitaires qui s'emparent de l'île il y a maintenant quelques années, si ces gens-là vont accepter de passer la main et permettre peut-être à une nouvelle génération politique d'éclore. En tout état de cause, je ne suis pas très optimiste. Je pense que malheureusement, les Cubains sont dans une situation de dépendance terrible vis-à-vis de l'État organisé les pénuries, qui a organisé cette dépendance pendant des années, en les soumettant à un carnet de rationnement, à la délivrance de permis pour tout obtenir. Et ce sont des gens qui sont très peu politisés, même si dans l'esprit, il y a quelque chose de profondément libertaire encore, et je le constate moi à chaque fois que j'y vais. Les gens n'ont aucune conscience parce qu'ils n'ont aucune culture politique. Ils n'ont jamais accédé à d'autres ouvrages que ceux que le régime leur soumet. Donc ce sont des gens, les jeunes notamment, qui sont plus avides de consommation, de parvenir à consommer comme on le fait dans nos pays, que de transformer leur vie avec un idéal social ou tout ça, quoi. Et ça, la principale responsabilité, la situation est telle, pourquoi cette jeunesse est complètement désemparée et sans futur à Cuba, à nos futurs, eh bien c'est parce que ce régime est totalement responsable de la situation. C'est lui qui a créé cette dépendance, c'est lui qui a soumis les gens, qui leur a ôté toute volonté de changement. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit des étrangers, des pays étrangers investir, des hommes d'affaires étrangers investir, s'emparer petit à petit de l'île dans différents secteurs. Et peut-être demain les Américains vont arriver, mais il est certain que il n'y a pas beaucoup d'issues, quoi.
Non. Et puis en plus, il y a une véritable maîtrise de la part de, tu l'as dit, de la bureaucratie cubaine, puisque en effet, tu as mis l'accent sur Obama et tu as eu raison de le faire. Mais pareil, ici, en Europe, certains ont pu louer le talent d'Obama, mais on a assez peu loué et regardé quand même la capacité justement de cette bureaucratie cubaine, de cette classe là, de cette couche, à être capable de prévoir justement dans de sa transition. Dans une décennie, la génération historique des dirigeants de Cuba va disparaître, c'est clair, parce que c'est un système qui arrive en bout de course et les gens sont, c'est une gérontocratie, quoi. Il faut pouvoir assurer la transition pour que les privilèges et le système qui profite à quelques-uns soient conservés. Alors pour ça, ils ont raison. Il vaut mieux remettre en cause un peu plutôt que tout changer pour que rien ne change, selon l'adage. Et là, cette question, cette chose, cette transition, elle va être effectivement faite sous contrôle, quoi. Mais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous parler pour les 10 minutes qui nous restent de ce que c'est la société cubaine dans sa composition démographique, sociale, et puis s'il y a quand même, parce que faudrait pas terminer sur une note pessimiste, même si malheureusement il faut être lucide, mais quelles sont les données de la société cubaine aujourd'hui, et est-ce que cette jeunesse, finalement, elle peut quand même ne pas se révolter?
Je crois que, sans rapport avec ce que je viens de dire, je crois qu'on a une société dans laquelle on a trois générations. La génération qui a été à la base de la révolution, qui a vécu les changements sociaux, qu'on ne peut pas nier au lendemain de la deuxième, au lendemain de la révolution, du triomphe des révolutionnaires, il y a eu des réformes fondamentales dans le domaine social, dans l'éducation, au niveau de la santé. C'est clair. Même si par ailleurs, il y avait une absence totale de liberté politique. Il y a eu ces gens qui étaient la base populaire de cette révolution. Ces gens ont vu leur niveau de vie changer. Qui ont vu, et ce sont des gens qui ont une ouverture au niveau culturel, malgré tout, parce que la révolution était accompagnée au niveau artistique et culturel de générations qui ont quand même énormément apporté dans la conscientisation politique des gens. Après, on peut dire qu'il y a une deuxième génération, c'est la génération qui a subi le choc des années 90, quand les Russes sont retirés, qui, elle, a vécu le désenchantement, parce que c'est une génération qui, grâce à l'apport des soviétiques, ne manquait de rien. Il n'y avait pas de problème de malnutrition, on n'avait pas de problème des pannes d'électricité parce qu'on n'avait pas assez de pétrole à l'époque. Donc les gens ont vu leur niveau de vie baisser, leur salaire stagner. Ça a créé déjà un traumatisme terrible au niveau de la deuxième génération. Et puis est venu ces 20 dernières années, 25 dernières années, la génération... peut comparer à la génération, si on compare les choses, à celle qui existe aujourd'hui en France, quoi, où malheureusement le désir de transformation, la volonté de changer les choses, la révolte n'est plus du tout enracinée, quoi. Et ces gens-là sont les gens qui désirent le plus aujourd'hui, et c'est terrible à dire, qui désirent le plus le retour des Américains dans l'île. Les anciens savent ce que sont les Américains, ce qu'ils ont fait, la manière dont ils ont géré l'île quand ils l'ont dominée. Mais ces jeunes ne savent pas. La seule chose qu'ils voient des États-Unis, c'est les images à la télé, parce que maintenant, bon, tout le monde accède plus ou moins par des canaux clandestins à quelques images comme ça. Ils voient un certain mode de vie à l'américaine, évidemment, ils n'en voient que la substance la plus visible, celle qu'on peut le plus facilement montrer. Ils voient des Américains venus de Miami, d'autres régions des États-Unis, qui sont des enfants d'exilés, qui arrivent à Cuba, qui viennent avec des dollars, qui ont des fringues dernier cri. Pour eux, ce sont des gens qui importent un modèle. Les touristes français, quand ils vont à La Havane, avec leurs jeans, leurs tenues, leurs t-shirts, ils les importent un modèle. Et les jeunes Cubains sont très sensibles à cela. Bon, en plus, les Cubains ont toujours aimé être élégants, bien habillés. Ça fait partie un peu de leur culture aussi. Hein. Et ça fait que, voilà, ces trois générations cohabitent aujourd'hui. Aucune d'entre elles n'a vraiment de vision politique, n'a une idée des changements qui pourraient être apportés, parce que elles ont été tellement privées, ces trois générations, de conscience politique, parce qu'on leur a jamais donné les moyens d'être conscients, que ces gens-là aujourd'hui sont dans une démarche très attentiste. Et puis bon, finalement, avec le système D, parce que c'est un système qui est très développé, les petites arnaques, les marchandises de l'État que l'on détourne, il y a quelque chose qui s'est installé et qui fait que les valeurs de la Révolution n'existent plus, c'est évident. Donc voilà, on en est à ce stade-là. Alors on a quand même, et ça c'est la seule chose qui peut nous réjouir, des gens, des étudiants, des travailleurs sociaux, des artistes, des gens qui travaillent dans différents secteurs comme ça, jeunes qui ont entre 25 et 40 ans aujourd'hui, qui étaient, moi je les ai connus plus jeunes, sont des gens qui travaillent dans différents secteurs, et puis à un moment donné, ces gens-là, qui avaient été militants dans une prime jeunesse, des jeunesses communistes par exemple, mm-hmm. qui avaient une conscience politique parce qu'ils l'avaient acquise, ils se sont formés, ils ont découvert des mouvements sociaux comme les indignés en Espagne, les révolutions arabes, ils ont découvert le mouvement Occupy Wall Street, et ces gens-là se sont fait une conscience révolutionnaire et défendent des idées profondément libertaires finalement. Ils parlent d'autogestion, ils parlent d'écologie, ils parlent de communisme libertaire, ils parlent de... Mais ce sont des choses dont ils se sont emparés. Ils font un gros travail aussi, et ça c'est tout à l'honneur de ces gens-là, c'est qu'ils se sont emparés de l'histoire occultée, celle qu'on, durant des décennies, le pouvoir a occulté, cette histoire du mouvement anarchiste. Cette présence anarchiste dans tous les mouvements sociaux et dans le mouvement ouvrier durant plus d'un siècle, ils se sont emparés de cette histoire et aujourd'hui ils essayent de la faire connaître à travers des publications clandestines, des documents sur des clés USB, des CD, des choses comme ça, à partir de beaucoup d'ouvrages qu'on leur a fait parvenir en espagnol, à partir de ce que nous ont fourni des copains de la CGT espagnole, de la CNT espagnole, des groupes comme la Aurora Intermittente à Madrid, sont des gens qui, on les a mobilisés, on leur a dit voilà, il faut nous aider, il faut qu'on fournisse à ces copains de la substance, de la matière pour qu'enfin ils deviennent des révolutionnaires conscients, et ça a très très bien marché, parce qu'aujourd'hui, chaque année, ils organisent un événement. Pendant des années, ça a été le forum social de l'Observatoire Critique, parce qu'au départ, ils étaient regroupés dans l'Observatoire Critique. Et puis, après, ça a été l'événement qui a suivi, c'était le printemps libertaire.
Daniel, j'entends le générique de notre émission qui démarre. Malheureusement, il est 20h déjà.
Je m'emballe là.
Voilà, donc on va rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent trouver tout un tas d'informations sur le site internet du GACIC, hein, qui s'appelle Polémica Cubana, et voilà, et qui reste attentif à ça. Puis nous, on aura l'occasion certainement de revenir et de rediscuter avec toi ou avec d'autres camarades au cours de cette année, puisque il apparaît clair qu'on reparlera des relations américano-cubaines et de Cuba au cours de cette année. Ne quitte pas, Daniel, je te reprends au téléphone, okay, et je laisse la parole à notre speakerine préférée.
De la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas
de inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, après cette très bonne émission, on retrouve les Grégor la semaine prochaine sur l'École des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment sur Radio Primitive à Reims où cette émission est réalisée. Vous retrouvez cette émission et les autres sur le site OC Libertaire et sur le blog Le Chat Noir 51.